Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ambition, l'émission qui donne la parole aux jeunes sur leur avenir professionnel sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Chiara, votre présentatrice, et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Fénelon Notre-Dame de La Rochelle. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la relation entre les passions et les métiers. Faut-il faire de sa passion son métier ou au contraire les séparer? Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons tout d'abord Emma, une chroniqueuse qui va nous parler de l'enjeu national de l'indécision. Nous accueillerons ensuite Jade, une journaliste qui va interviewer Paolo et Solène. Et nous finirons cette émission avec un débat entre ces deux invités. C'est parti pour Ambition.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse Emma s'installe en studio. Comment ça va Emma?
Mais ça va et toi?
Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'enjeu national de l'indécision des jeunes vis-à-vis de leur avenir professionnel.
Et oui Chiara, les jeunes de nos jours savent de moins en moins quoi faire dans le cadre de leur avenir professionnel. Dans la cour d'école, la réponse la plus susceptible de revenir face à cette question est « je ne sais pas ». Les chiffres ne mentent pas non plus. En juillet 2025, le taux de chômage des moins de 25 ans en France est de 18,5% d'après le groupement d'intérêts économiques européens Toute l'Europe. Autre chiffre marquant, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, APEL, déclare en 2025 que 39% des élèves de 15 ans ne savent pas encore ce qu'ils feront plus tard contre 24% en 2018. Pourtant, le gouvernement essaye de remédier à ce problème avec différentes mesures. On peut par exemple citer la déclaration de l'ancienne ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, sur LCP. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à la façon dont on se projette dans une formation. Cette déclaration très controversée nous a interrogés sur la catégorisation des élèves. L'image populaire veut d'eux qu'ils soient décidés et inflexibles vis-à-vis de leur orientation professionnelle dans un milieu qui leur plaise. Mais avec le rallongement des heures, des cours, souvent de 10 heures, la fréquentation des activités extrascolaires est en baisse constante. Mais cela soulève une grande question. Les patients sont-elles dissociables de notre avenir professionnel?
Merci Emma. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. On vient d'écouter Imagine de John Lennon. L'émission Ambition continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Jade. Vous recevez Paolo et Solène. Vous allez nous parler de la relation entre les passions et les métiers.
Oui, tout à fait. Comme évoqué par ma collègue Emma, concilier ses passions et sa vocation professionnelle peut être compliqué et parfois source de tension. En effet, les points de vue peuvent diverger, on va notamment le voir donc avec Solène et Paolo, nos deux invités d'aujourd'hui. Donc Paolo est un grand fan de rugby et ambitionne du coup à devenir rugbyman, tandis que Solène est une lycéenne qui envisage des études d'architecture. Donc Paolo, vous avez participé au club de rugby de votre ville depuis que vous êtes très jeune. D'où est née cette passion et est-ce qu'elle a toujours eu l'importance qu'elle a aujourd'hui pour vous ?
Oui, alors c'est ça. Bonjour à tous. Je m'appelle en effet Paolo. Donc je suis espoir demi d'ouverture au Stade Rochelet, chez les U18. Alors j'ai choisi de faire de ma passion mon métier pour plus tard. Car le rugby m'a toujours inspiré. Dès mes 4 ans, avec mon père par exemple, je suivais les matchs les plus intenses du Stade Rochelet depuis qu'ils sont en Pro D2 par exemple. Et commencé à le pratiquer dès mes 5 ans, ce qui m'a profondément plu, moi. Et voilà, pour moi, cela n'a jamais été une question. Le rugby est ma source d'inspiration. À aucun moment, les cours m'ont permis de me dire « oui, je veux faire ça, oui, c'est ce que je veux faire ». Et jamais la société ne m'a réellement intéressé.
Ok, super, merci beaucoup, c'est un très beau projet. Et Solène, vous, vous ambitionnez donc à devenir architecte. Est-ce que ce projet a une origine particulière ? Et est-ce qu'en parallèle, vous avez des passions que vous nourrissez dans votre temps libre ?
Oui, en effet, Jade. Alors moi, j'ai différentes passions dans mon temps libre, mais je ne veux pas en faire mon projet professionnel. Les études d'architecture, c'est quelque chose qui me fait vibrer depuis longtemps, depuis le collège. Mais je ne considère pas ça comme une passion et mes passions, je ne souhaite pas en faire mon métier.
Ok, super, merci beaucoup. Donc, on peut déjà voir que vous accordez pas du tout la même place à vos passions dans votre vie. Donc, Paolo, pour toi, il apparaît que c'est important de transformer ses passions en métier. Pourquoi ? Est-ce que tu verrais peut-être des risques à ne pas faire de ses passions son métier ?
Alors oui, peut-être en effet, pour moi, les risques de ne pas suivre sa passion peuvent être d'abord la charge de travail qui peut être trop importante lorsqu'on suit les études. Hein, beaucoup d'étudiants, comme on l'a vu précédemment, qui sont dans une situation qui ne savent pas quoi faire et qui, même après leurs études, n'arrivent pas à trouver de travail. Et ce qui serait une concentration d'anxiété. Ce qui serait contraire au bon stress qu'on aurait de nous la veille d'un match, par exemple. Et également, de par une enquête People at Work de 2024, 61% des actifs français se sentent stressés au moins une fois par semaine, ce qui peut en effet décourager un petit peu cela.
Ok, super, merci beaucoup. Et donc, Solène, pour toi, il y aurait plus un équilibre de vie à avoir qui... entre donc les passions qu'il faudrait totalement dissocier de la vie professionnelle. Est-ce que pour vous, c'est donc une garantie d'un épanouissement, peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on peut avoir des difficultés dans l'équilibre entre son travail et sa passion. Mais si notre passion devient notre métier, on ne vit plus que de cette passion. Donc, en fait, quand on rentre à la maison, on n'a plus quelque chose pour décompresser, nous faire plaisir, pour justement déstresser du travail. Et c'est ça qui peut être un peu handicapant, où en fait tout se retrouve dans la même zone entre le travail et la passion. C'est un peu mélangé et confus et on peut y prendre moins plaisir aussi puisque ça devient notre travail.
Ok, donc est-ce que pour toi c'est important de garder tes passions hors du travail. Est-ce que tu penses que ça te permet de les envisager donc sans pression, mais est-ce que c'est aussi peut-être un frein quelquefois de développement de cette activité-là ?
Oui, alors en faisant en fait, de sa passion son métier, on va s'obliger à devoir poursuivre cette passion puisque c'est ce qui nous permet de vivre. Et donc si on perd ou on se lasse de cette passion, ça peut en fait, nous rendre malheureux déjà dans notre travail et du coup à la maison vu qu'on n'a plus vraiment de passion. Mais c'est vrai que, comme disait Paolo, on peut avoir un manque de temps pour exprimer sa passion avec notre travail, la vie personnelle à côté. Et c'est une des difficultés de concilier les deux afin de développer sa passion, mais sans en faire une activité qui va être... Par exemple, dans le sport, on peut aimer le sport sans vouloir être meilleur, et donc le faire de manière totalement décontractée pour juste se divertir et voilà, décompresser. Je pense que ça ne freine pas forcément le développement de la passion si on y accorde le temps nécessaire.
C'est un point de vue très intéressant, donc je me permets de demander à Paolo ce qu'il en pense. Et puis, parce que pour toi, donc, la passion devrait être poursuivie dans un but quand même assez professionnel.
Oui, alors, ce côté professionnel de cette passion pourrait être une force, en effet, avec le développement qu'on aura eu de cette passion depuis qu'on est petit. Moi, je ne pense pas que ce serait une obligation pour moi d'aller, par exemple, au match. Ce sera plus une chance, en fait. Voilà, ce sera quelque chose d'important pour moi. Et je pense que c'est totalement possible d'avoir de faire de sa passion son métier. Les deux ne sont pas indissociables.
Merci beaucoup pour ces deux points de vue, c'était super intéressant. Donc pour conclure notre interview, je me permets de vous demander si vous avez peut-être un petit conseil à des personnes qui pourraient nous écouter et qui seraient peut-être tiraillées entre ces deux approches et ces deux visions de voir les choses. Est-ce que peut-être vous avez entre vous deux deux idées différentes ou qui se trouvent...
Je peux commencer du coup, mais c'est vrai que ça peut être tentant de faire de son métier sa passion, d'avoir un métier passion, mais des fois ça peut amener finalement à plus de difficultés et moins de bonheur que si on fait sa passion en dehors de son travail, qu'on puisse vraiment apprécier sa passion comme quelque chose qui va nous réconforter, nous faire plaisir, sans un but de gagner de l'argent par rapport à cette passion et vivre en fait de cette passion. Donc... ça peut être. On peut penser que c'est le bon plan de faire un métier passion, mais c'est parfois très difficile.
Alors oui, je suis d'accord. Beaucoup de gens pourraient penser comme ça, en effet. Moi, de mon point de vue, je pense que ceux qui ont vraiment une passion qui est fondatrice dans leur vie, qui vraiment c'est vraiment une passion mais première, je leur conseille tout simplement de continuer dans cette passion, de persévérer. On a évoqué le sport, le rugby, ça peut être tout autre sport, mais ça peut être également plein d'autres choses. Ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être tout ce qui est dans le culturel. Et ça peut, je peux conseiller à une personne qui a une passion de continuer dans cette passion et voir si ça peut aller plus loin.
Merci beaucoup pour cet échange, Jade et Paolo.
Merci à vous surtout.
Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission Ambition. Merci à Emma, Jade, Paolo et Solène. Merci notamment à Alban pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Débats de la Jeunesse sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Noé, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du journal lycéen Le Petit Fanon. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons nous intéresser à la désinformation et aux nouvelles manières de s'informer en tant que lycéen. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Amaury, journaliste politique au journal de notre lycée. Il présentera une chronique sur la désinformation touchant la jeunesse. Ensuite, nous accueillerons Charlotte, journaliste au même journal, qui présidera le débat sur les différentes manières de s'informer. C'est parti pour les débats de la jeunesse.
À vous les studios. Les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueur Amaury nous a rejoint. Amaury, comment ça va ?
Bonjour Noé, bonjour à tous et à toutes, ça va très bien.
Aujourd'hui Amaury, tu viens nous parler de la menace grandissante qu'est la désinformation, une menace qui touche particulièrement les jeunes.
Tout à fait, je vais donc vous parler de la désinformation auquel sont confrontés les jeunes. Comme vous le savez, les personnes âgées s'informent plutôt avec les médias traditionnels, dont les informations sont a priori vérifiées. Par contre, les jeunes ont accès à bien plus d'informations, ils en sont même submergés et ne peuvent échapper aux fausses infos. 80%, c'est la part du contenu présent sur les réseaux sociaux qui sera créé par IA en 2026. Cela force à se poser la question de l'éducation aux médias chez les jeunes. 54% des 12-18 ans souhaitent avoir cette information, mais moins de 40% des écoles proposent l'éducation aux médias. Ces statistiques rendent le phénomène d'autant plus inquiétant qu'elles montrent que nous ne sommes pas prêts face à la désinformation. Pour en revenir à l'intelligence artificielle et au virtuel, 13% des moins de 25 ans ont déjà été victimes de deepfakes. Motif d'espoir, 55% d'entre eux pensent les détecter. Le problème, c'est que la désinformation ne vient pas seulement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les êtres humains peuvent aussi mentir et propager justement de fausses informations. On voit ainsi l'apparition de nouveaux phénomènes comme l'effet alternatif ou la post-vérité. L'effet alternatif, ce sont des contre-vérités grossières mais pas si facilement détectables. Par exemple, Donald Trump affirme en 2017 que sa cérémonie d'investiture fut la plus grande en termes d'audience. On pourrait choisir de le croire sans trop vérifier. Cependant, si on s'attarde un petit peu plus sur sa déclaration, on voit que celle-ci est largement contredite par les photos de l'événement. La post-vérité, c'est une théorie selon laquelle l'émotion et la croyance comptent plus que les faits. On aurait tendance à se dire qu'il suffit de vérifier les informations qu'on voit. Le problème, c'est que notre capacité d'information, avec les réseaux sociaux notamment, a tendance à grandement se réduire. Ainsi, la capacité d'attention d'un être humain ne serait que de 8 secondes. Autrement dit, on traite l'information avant de passer à la suivante sans y prêter plus attention que ça. On n'a donc que 19% des 12 à 18 ans qui vérifient leurs infos. Et en plus, ce sont moins de 25% des collégiens qui reconnaissent une fausse information. Cela donne donc une idée de la désinformation qu'ingurgitent les jeunes chaque jour et auxquels ils font face. Et cette chronique m'amène à poser cette question. Faut-il labelliser l'information ?
Merci beaucoup Amaury, on revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Ok, 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 ok. You live in my dream step, relocate my fantasy, I stay in reality. You live in my dream step, anytime I count sheep, that's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, my eyelids. No, I don't wanna wake. 2020, 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes.
Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again.
I said, okay, 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 dookie. My infatuation it translating to another form of what you call it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose in the cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So
can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And
On vient d'écouter See You Again de Tyler the Creator. Les débats de la jeunesse continuent sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite, nous lançons le débat. Bienvenue à notre journaliste Charlotte. Charlotte, vous recevez Louise et Kathleen, lycéennes en classe de terminale. Vous allez nous parler de votre manière de vous informer en tant que lycéenne.
Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un débat sur les modes d'information des jeunes. Nous nous poserons la question suivante, quel est le meilleur moyen de s'informer pour les jeunes? Afin de répondre à cette problématique, nous interrogeons deux jeunes de 17 ans, Kathleen.
Bonjour.
Et Louise.
Bonjour.
Pour y répondre. Kathleen, vous êtes beaucoup plus tournée vers les médias traditionnels. Comment vous informez-vous?
Écoutez, moi je trouve que les médias traditionnels comme la radio, donc France Inter, Europe 1, France Culture, bref ce que vous écoutez dans la voiture, ou la presse écrite, ou même le journal de 20h avec la famille, c'est beaucoup plus important justement pour la fiabilité des informations. C'est plus facile à vérifier ces informations, à creuser. Et justement, comme je disais, il n'y a plus cette présence avec la famille. Et donc, on a beaucoup plus conscience de ce qui se passe autour de nous. Et aussi, ce que je trouve qu'il y a un risque, c'est l'influence de la technologie sur notre opinion ou ce qu'on pense. On ne pense pas que c'est très très grave maintenant, mais je pense que dans le futur, ça va être beaucoup plus grave.
Et Louise ?
Alors moi, je m'informe de plusieurs manières différentes, mais la manière la plus importante, c'est les réseaux sociaux. J'utilise des plateformes très connues qu'on utilise tous ou presque, telles qu'Instagram, TikTok ou X. Et c'est quand même des plateformes qui sont des réels vecteurs de l'information et qui nous donnent un accès à une multitude de nouvelles ressources, que ce soit à travers des médias déjà existants qui sont adaptés et mis sur les réseaux sociaux, comme Le Monde, par exemple, qui est qui a un compte qui a plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, c'est pas négligeable, et également des nouveaux médias qui émergent, comme Hugo Décrypte, par exemple, très connu chez les jeunes sur TikTok notamment. J'utilise aussi d'autres plateformes comme YouTube. Par exemple, moi, je prends mon exemple personnel. Quand je révise mes cours, que je comprends pas une notion en maths, je vais regarder une vidéo YouTube de Yvan Monca et ça passe mieux. C'est pas un média à proprement parler, mais il transmet quand même de l'information et son savoir à travers des vidéos. Et puis après, j'utilise des applications comme France Info. Ça me permet d'avoir des notifications en temps réel. Dès qu'il y a une actu chaude dans le monde, bah, je le sais directement, je reçois une notif. Et puis, j'écoute aussi des podcasts qui me permettent de cibler tous les sujets que j'ai envie d'étudier. Et voilà.
Mais comment êtes-vous sûre que vos informations sont fiables? Et que conseillez-vous, Louise?
Moi, je tiens déjà à rappeler que sur les réseaux sociaux, il y a l'IA. Qui est beaucoup là et qui a tout, il y a un peu de tout, donc c'est hyper facile de se perdre et de tomber sur des fake news, d'être victime de désinformation. Donc je pense qu'on peut s'informer de manière juste sur les réseaux sociaux en croisant les sources et en faisant attention à la manière dont on utilise l'information. C'est ça qui est le plus important. Donc ce que je conseille, pardon, c'est de croiser les sources, bien évidemment, d'aller sur des comptes sérieux. Comme je l'ai dit, Le Monde, Le Figaro, on sait que c'est des médias très connus qui ne sont pas vecteurs de désinformation. Et puis après, il faut faire attention aussi à prendre du recul. Pour moi, c'est la chose la plus importante, avoir du bon sens. Donc on se pose face à l'information qui est devant nous et on se pose des questions. Donc qui nous donne cette information? Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment on nous le dit? Et puis après, il y a des outils de vérification aussi très connus, comme le fact-checking ou les badges officiels, donc les petites certifications. Ça prend 2 secondes à vérifier et puis on peut quand même être certain que l'information est vérifiée si on le remarque.
Et qu'en pensez-vous, Kathleen ?
Justement, je pense que les médias traditionnels sont faits par des humains et donc disposent de rédactions professionnelles avec des journalistes formés et qui respectent des chartes déontologiques. Ils vérifient leurs sources, justement croisent les informations et s'engagent juridiquement. Justement, Louise a dit que nous devons croiser nos informations également en tant que citoyens, soi-disant. Mais nous ne pouvons pas toujours avoir cet esprit critique si nous nous sommes influencés. Ils vérifient leurs sources, justement, comme j'ai dit. En cas d'erreur, ils s'engagent juridiquement. Et ceci n'est pas le cas en ligne ou avec les réseaux sociaux, justement, qui ne prioritisent pas les bulles de filtrage ou les For You pages, justement. Donc, quelque chose qui correspond à nos préférences et pas vraiment les sources d'actualité qui ne sont pas personnalisées.
Comment défendriez-vous votre mode d'accès à l'information, Louise ?
Déjà, je voulais juste rebondir par rapport à ce que Kathleen a dit. Premièrement, il ne faut pas confondre les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les applications, comme je l'ai dit, les podcasts, etc., qui sont aussi faits par des humains. Donc ça, c'est la petite aparté. Et moi, pour défendre donc, les nouveaux médias, donc ceux que j'utilise moi au quotidien pour m'informer, déjà, je vais parler de l'accessibilité. Ça nous permet de nous informer n'importe où et n'importe quand, n'importe où sur la planète et à l'heure de toute heure de la journée ou de la nuit, pardon. Par exemple, encore une fois, je prends mon exemple personnel. Moi, dans le bus, je lis des articles sur Le Monde dans mon application, sur mon téléphone. J'optimise mon temps et puis je m'informe en même temps. Par ailleurs, je vais aussi courir. J'écoute des podcasts. Je mets mes écouteurs et j'écoute un podcast, sur les tensions géopolitiques. Également, la rapidité de l'information dans le monde, elle est super grande. Il se passe quelque chose n'importe où dans la planète. On est au courant quelques minutes après de tout ce qui se passe avec des images, avec des preuves. Et donc, l'information, comme ça, elle se relaye hyper vite à travers toute la planète. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et puis, il y a aussi que ça crée une limite au désintérêt des jeunes. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de notre société. Les jeunes, ils se désintéressent de plein de trucs. Donc, comme les nouveaux médias, ils sont sur nos téléphones, les jeunes, ils sont déjà connectés. Donc, en 2-3 clics, ils ont accès à des informations vers lesquelles ils ne se seraient pas tournés en temps normal. Et donc, c'est très facile pour eux de consulter l'info. C'est ce qui est cool. Donc, ils retrouvent un peu cet intérêt-là. Et puis, ça permet aussi de donner une voix à tous. Les nouveaux médias, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de s'exprimer et tout le monde peut être vecteur d'information. Donc, il faut quand même faire attention, pareil, aux fake news. Mais je pense que si on apprend à les utiliser correctement, les nouveaux médias, ils sont de très bons moyens de s'informer. Et puis, ça diminue aussi beaucoup le risque de désinformation.
Et Kathleen, qu'est-ce que vous en pensez ?
Justement, je vais vite fait rebondir aussi. Ok, il y a les nouveaux médias ils sont peut-être faits par des humains, mais les humains justement, ils peuvent influencer également. Ça n'enlève pas justement cette fake news, mais vous pouvez pas vraiment vérifier parce que c'est tellement rapide tout ce qui est l'internet et tout ça, on peut avoir tellement facilement et justement trop facilement. La presse écrite ou les reportages télévisés offrent des analyses, des enquêtes et des dossiers vraiment complets, ce qui permet de comprendre plutôt que simplement consommer une information brute et isolée. Les médias traditionnels, ça permet de ne pas être influencé, justement, comme j'ai dit, par l'Internet où il y a quand même quelque chose de présent dans ces nouveaux médias qui, en soi, volent des sources ou des photos de journalistes qui travaillent pour ça. Ça menace justement leur travail et l'accès à ce travail, et donc la fiabilité qui vient du travail humain pour les futures générations. Revenir au traditionnel, en soi, ça veut dire valoriser l'humain, et donc assurer un esprit critique. Donc, nous devons garder les médias traditionnels, non par une sorte de nostalgie, mais parce qu'ils sont un outil de protection, comme la manipulation, l'ignorance est contre un esprit fermé. Pour un jeune, c'est une forme de liberté ou contre le contrôle intellectuel.
Merci Kathleen et Louise de nous avoir éclairé sur ce sujet assez complexe.
Merci Charlotte, merci Kathleen, merci Louise.
Merci
c'est
à vous.
C'est la fin de notre
merci
émission
beaucoup.
Les débats de la jeunesse. Un grand merci à Amaury, notre chroniqueur, Charlotte, notre journaliste, nos invités Kathleen et Louise. Et n'oublions pas Augustin, notre réalisateur, sans qui vous ne pourrez pas nous écouter. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cap sur Demain sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis Antoine Chède, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première et terminale du lycée de La Rochelle, Fesneau-Notre-Dame.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler aujourd'hui de l'orientation de nos lycéens, la pression qui peut être liée à Parcoursup, ainsi que l'avenir qui est une question importante chez nos jeunes. Au programme aujourd'hui, nous écouterons un premier débat entre Elsa, Astrid, Louise et Elisa. Nous accueillerons ensuite Clémence pour sa chronique sur Parcoursup. C'est parti pour Cap sur Demain.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure du débat. Bienvenue à notre journaliste Elsa. Vous recevez nos trois invités, Astrid, Louise et Elisa. Vous allez nous parler de votre orientation ainsi que du choix de vos spécialités. Et je laisse tout de suite la parole à vous, Elsa.
Merci Antoine. Donc bonjour. En effet, on remarque un certain stress important chez les jeunes. Donc comment vous vous êtes senti en classe de seconde face au choix de vos spécialités? À vous, Astrid.
Bonjour Elsa. Je m'appelle Astrid et je suis étudiante en première au lycée Fénelon Notre-Dame à La Rochelle. J'ai choisi l'ESP maths, physique, SVT afin de m'orienter dans l'oncologie qui me passionne depuis toute petite.
Merci bien. Elisa?
Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis élève en terminale. En première, j'avais choisi les spécialités mathématiques, physique-chimie et NSI, donc numérique, sciences informatiques, et j'ai gardé mathématiques et physique-chimie en terminale. J'avais choisi les spécialités maths et physique car c'était des matières dans lesquelles je me sentais à l'aise et dans lesquelles j'avais des notes assez correctes. J'avais choisi la spécialité NSI afin de compléter un profil plutôt scientifique et pour faire bonne impression vis-à-vis des écoles, alors que j'aurais plutôt préféré prendre une spécialité littéraire telle que AJGSP. Je pense faire des études d'ingénieur car c'est une voie qui reste assez générale.
Merci beaucoup. Et donc pour vous, Louise?
Donc bonjour, je m'appelle Louise, je suis élève en terminale. En première, j'avais pris les spécialités mathématiques, physique, chimie et AJGSP, donc histoire géo, géopolitique et sciences politiques. J'ai gardé cette année les spécialités AJGSP et maths. Donc dès la première, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc j'ai fait le choix de prendre ce qui m'intéressait le plus, même si cela aurait pu me bloquer par rapport à Parcoursup. Donc dès mon enfance, j'avais plein d'idées de métiers, mais aucune qui a été vraiment ma voie et auquel je m'y voyais dans le futur. Aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas faire, mais je suis un peu perdue par rapport à tout ce que j'aime et comment je peux l'exploiter pour mon avenir.
Ok, merci beaucoup. Et donc, de manière plus générale, est-ce que votre orientation représente un stress pour vous?
Alors non, moi, parce que j'ai la chance, grâce à la clarté de mon orientation, de ne pas être inquiète sur la voie à suivre.
L'orientation représente un stress dans la mesure où je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, même si je sais que ce sera plutôt dans le domaine scientifique. De plus, j'ai peur de faire des études pendant plusieurs années pour finalement me rendre compte que ça ne me plaît pas vraiment. Mais je sais qu'il existe de plus en plus de ponts pour passer d'une filière à une autre et cela me rassure grandement.
Oui, personnellement, moi ça me génère un gros stress car je me sens vraiment dépassée par ce choix. On me demande de choisir une voie ou une filière pour y passer de nombreuses années d'études, pour s'y orienter pendant les 40 prochaines années de ma vie et cela me fait un peu peur. Toutefois, notre génération, elle a vraiment la possibilité de se réorienter facilement au niveau des études et des métiers, ce qui est plutôt rassurant et ce qui n'est vraiment plus comme avant et l'époque de nos parents.
Merci beaucoup pour ces réponses. Nous accueillons maintenant notre chroniqueuse Clémence qui s'installe en studio. Comment ça va, Clémence?
Ça va, merci, et vous?
Super. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Parcoursup. Concrètement, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, concrètement, Parcoursup, c'est une plateforme qui a été mise en place en janvier 2018. Et ce projet était à l'origine porté par Frédérique Vidal, qui était donc la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est une plateforme qui permet une démarche simplifiée pour préinscrire les lycéens en première année de l'enseignement supérieur en France. Elle permet de s'informer, avec notamment des outils, à l'instar de la carte d'identité de la formation, du niveau attendu, des spécialités de première et de terminale à avoir suivies, de la statistique, des statistiques de l'année précédente au niveau des admissions, la carte des formations. Elle permet également de s'orienter en découvrant plus de 24 000 formations et elle permet de suivre sa formation par le biais d'un calendrier qui structure l'année de terminale et de hiérarchiser ses vœux avec un système de 10 vœux et de 10 sous-vœux. Parcoursup permet aussi aux personnes en situation de handicap de favoriser leur accueil dans des formations du supérieur grâce à des dispositifs spécifiques. Toutefois, on note qu'au fil des témoignages des élèves, un flou demeure au niveau de cette plateforme et cela provoque beaucoup de stress, souvent chez les élèves, mais aussi chez les parents dans certaines familles.
Très bien, merci Clémence pour ta chronique. Est-ce que vous vouliez peut-être répondre à cette question?
Alors, Parcoursup est effectivement un pilier fondamental du passage de la vie lycéenne à celle étudiante. Et contrairement à mon orientation, Parcoursup est davantage enclin à me procurer du stress parce que je sais que je ne suis pas seule à présenter un dossier et qu'il y a des étudiants déjà meilleurs que moi, que les écoles sont très sélectives et qu'il y a un nombre élevé de dossiers présentés.
Je me sens stressée par rapport à Parcoursup car il n'y a pas vraiment d'école que je vise et je ne sais pas trop quoi mettre comme vœu. Et les échéances sont assez rapides, mais je me dis que c'est une plateforme qui permet de poser sa candidature de manière assez facile comparée à ce qu'avaient nos parents, par exemple, et d'avoir toutes les écoles rassemblées au même endroit. De plus, il existe de nombreux salons et conférences qui permettent d'apporter des réponses et d'avoir des témoignages pour mieux pouvoir remplir ses vœux.
Personnellement, je stresse beaucoup par rapport à Parcoursup car les échéances se rapprochent de plus en plus et malgré tout, nos choix ils sont limités puisqu'on n'en a que 10. En revanche, on a vraiment plus l'impression d'avoir un dossier qui a été étudié et donc une réponse donnée à la fin qui est légitime et qui est presque anonyme et donc qui n'est pas donnée en fonction de notre niveau de vie ou notre classe sociale.
Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Et maintenant, petite pause musicale.
Longtemps dans les rues, observer les gens muets dans la chaleur du soir, les bras nus, me nourrir uniquement de la nuit, de ses défauts et de sa folie, pour commencer deux jours plus tard, faire ça toute ma vie. Monter en haut des toits, faire des portraits de mes amis, parler à des gens que je connais pas et m'en tirer sans trop d'ennui. Voilà, c'est ça ce que je veux, des jours avec du soleil et de la pluie.
On vient d'écouter Mais de Vidéoclub. Je laisse maintenant la parole à Elsa.
Oui, merci Antoine. Donc de nos jours, de nouvelles technologies nous sont proposées. Donc est-ce que pour vous, les réseaux sociaux vous aident dans le choix de votre avenir ?
Alors Elsa, je ne suis pas du tout présente sur les réseaux sociaux. En revanche, il y a des salons comme le salon de l'étudiant et le salon Presserel très présents à La Rochelle qui me permettent de me renseigner et de ne pas me sentir seule et donc accompagnée et de m'aider dans mon choix d'avenir.
Personnellement, je n'ai pas beaucoup de contenus qui sont proposés automatiquement sur les réseaux sociaux, sur les études. En revanche, je m'y intéresse vraiment de mon plein gré, mais ailleurs, donc comme sur Internet, par des vidéos ou des revues, et ce qui n'est pas forcément l'endroit où je fais vraiment mes recherches.
Ok, merci. Et donc, en conclusion, est-ce que ces moyens d'information diminuent-ils votre stress pour le choix de votre orientation ?
Alors oui, parce que ça me permet de me sentir plus accompagnée. Et différentes générations peuvent donner des conseils, donc plus sur la vie étudiante ou des conseils plus mûrs. Et donc ça me permet d'éviter des erreurs et également D'être très accompagnée. Je me sers de sites tels que l'UNICEF afin de me renseigner sur différents métiers, mais ça ne réduit pas totalement le stress car cela reste assez flou de connaître un métier si on n'est pas plongé dans l'environnement de ce métier.
Moi, pas forcément, parce que certes, je trouve cela très bien de pouvoir s'informer partout, entre guillemets, mais le fait d'être vraiment plongé directement, presque en permanence, via les réseaux sociaux et dans les contenus qui sont générés automatiquement, ça me stresse parce que c'est pas forcément ce à quoi je veux penser quand je vais sur les réseaux sociaux, car on nous le répète déjà beaucoup.
Merci beaucoup, les filles.
Très bien, merci beaucoup pour ces interventions. C'est la fin de notre émission Cap sur demain. Merci à notre journaliste Elsa, notre chroniqueuse Clémence, ainsi qu'à nos trois invités Astrid, Louise et Elisa pour vos interventions. Merci à Cyrielle Ballan également pour la réalisation de cette émission. À bientôt sur Radio Campus Paris. We'll be right back.